Charles-Louis-Philippe. La mort du vieux. Voici ce qui était arrivé. Un jour, la mère Turpin s'était aperçue qu'elle n'apportait plus aucun goût à son travail. Une idée l'a prise qu'elle ne put chasser, l'idée de se mettre au lit. Elle se coucha, et lorsqu'elle fut étendue, elle comprit, à la façon dont elle appréciait le repos, qu'elle ne pourrait jamais plus s'intéresser aux besognes qui, jusqu'alors, avaient rempli son existence. Elle ne se trompait pas. Il lui sembla même qu'il y avait quelque chose qui la reposerait plus que le sommeil. Respirer. Faire seulement l'effort qu'il faut pour respirer devint pour elle extrêmement pénible. Elle s'arrêta et mourut à l'âge de 74 ans. Assurément, le père Turpin savait bien que tout le monde meurt un jour, mais il ignorait que le jour de la mort de sa femme serait celui-ci. Il se trouva tout bête et bien surpris. Il dit: « Je n'aurais jamais cru que la journée finirait de cette façon. » Et même lorsqu'il sut, avec une claire certitude, que le triste événement était accompli, il ne se rendit pas bien compte de l'importance qu'allait prendre la disparition de sa femme. Elle était morte. Il la plaignait de tout son cœur, parce qu'il est plus triste encore d'être mort que d'être malade. Tous les voisins étaient venus auprès de lui. Il fut content d'eux. Malgré l'heure tardive, il n'avait pas hésité à se déranger. Il lui sembla d'abord qu'ils allaient réussir à lui adoucir les ennuis qu'entraîne avec elle la mort de quelqu'un que l'on a connu. Il leur disait « Vous êtes du bon monde ». Et la pensée que les gens valaient mieux qu'ils ne l'avaient cru jusqu'alors lui faisait beaucoup de bien. On s'occupa de lui. Les femmes dirent « Père Turpin, vous avez travaillé toute la journée et vous venez de recevoir une grande secousse. Il faut vous reposer à votre âge. Nous passerons bien la nuit sans vous. » Si la chose n'avait tenu qu'à lui seul, il se serait étendu à côté de sa femme. Elle ne lui faisait pas peur quand elle était vivante, elle n'allait pas lui faire peur maintenant qu'elle était morte. Mais il n'est pas convenable de dormir dans le lit d'un mort. Du reste, il y avait un autre lit dans la chambre. C'était celui qu'occupait son petit garçon lorsqu'il venait dans le pays de ses grands-parents passer les vacances. Il était bien étroit, il n'était pas long, malheureusement, puisque le petit n'avait que 10 ans. Mais les voisines dirent « Vous serez encore mieux dans ce lit que sur une chaise. » Le père Turpin ne pouvait pas étendre ses jambes. Son dos touchait le mur. Il allait certainement attraper une courbature. Mais il lui vint une pensée qui lui fit accepter avec une sorte de joie tous les inconvénients de sa méchante installation. Il dit « Pauvre femme, je suis encore mieux dans mon petit lit qu'elle dans son grand. » La journée du lendemain ne se passa pas trop mal. On avait envoyé des dépêches, le gendre et la fille arrivèrent à 10 heures du matin avec leur petit garçon. Le beau-frère et la sœur de la défunte arrivèrent à 11 heures. Il y avait 10 ans au moins que le père Turpin ne les avait vus. La femme avait beaucoup vieilli. Les hommes s'occupèrent ensuite des détails de l'enterrement. Ce serait pour le lendemain, à 11 heures. Le père Turpin apprit cela. On mangea dans le courant de la journée. Il vint des visites. Il s'écoula plusieurs heures. On mangea encore le soir. La journée passa. Mais le lendemain fut un jour singulier. Dès le matin, on mit le cadavre en bière. C'était bien vrai. Dès qu'on eut vissé le couvercle, le père Turpin fut obligé de se dire qu'il ne verrait plus jamais sa femme. Il se consola d'abord à la pensée qu'elle était enfermée dans son cercueil et que le cercueil était encore là, dans la maison, sur le lit. Il pouvait le contempler. Il le regarda pendant l'enterrement. Les porteurs marchaient lentement, tant mieux. La cérémonie fut longue à l'église. Pour la première fois de sa vie, le père Turpin ne s'ennuya pas en écoutant chanter latin. Lorsqu'il sortit de l'église, le cercueil prit le chemin du cimetière. Il était caché sous un drap noir, mais il était là. Lorsqu'on le déposa sur le bord de la fosse, il n'avait pas disparu encore. Le père Turpin le vit, 2 minutes plus tard, dans son trou. Mais lorsqu'il fallut reprendre le chemin de la maison, le père Turpin comprit que chaque pas en avant était une lâcheté. Il n'eût pas dû s'éloigner de ce cercueil. On peut dire que ce fut le lendemain matin seulement, lorsque, au réveil, il se trouva seul chez lui, que le père Turpin s'aperçut que sa femme était morte. Ce ne fut pas, comme on pourrait le croire, parce qu'il dut préparer sa soupe lui-même. Non, il la mit au feu, elle bouillit, il la trempa, cela ne faisait pas un gros travail. Ce fut au moment où il devait la manger. Il allait, déjà, par une vieille habitude, porter sa cuillère à sa bouche. Il s'arrêta. Eh bien, la chose était étonnante. Il ne trouva pas le courage de manger. Avait-il faim pourtant, oui ou non? Il lui sembla qu'il avait faim. Il lui manquait quelque chose pour qu'il pût se décider à manger. Il essaya, pour se distraire, d'aller travailler dans son champ. Mon Dieu, le champ n'était pas très éloigné. Il y arriva sans se presser. Il voulait semer ses pommes de terre. Il allait s'y mettre. Mais voilà que soudain, comme il les touchait, comme il les tâtait, comme il les palpait, il ne savait pas très bien qu'est-ce qu'il remuait dans le creux de sa main. Était-ce des pommes de terre ou des cailloux? En tout cas, dans son esprit, il ne faisait aucune différence entre ces deux sortes d'objets. L'un ne l'intéressait pas plus que l'autre. Il les laissa s'échapper de sa main, et ce ne fut qu'un bon moment plus tard qu'il constata qu'il ne semait pas ses pommes de terre. Il était debout dans son champ. Assurément, il regardait quelque chose. Mais pourtant... Tiens, qu'est-ce que je regarde donc? Se demanda-t-il. Il sentait dans sa poitrine comme un grand trou. Est-ce que, par hasard, quand on a vécu longtemps près d'une personne, ça vous fait pousser quelque chose dans le corps et ça s'en va quand les gens s'en vont? C'est à cause de cela, sans doute, parce qu'il avait un trou dans l'estomac qu'il n'avait pas pu manger le matin. Il ne mangea pas à midi davantage. Et comme il s'était assis sur sa chaise, il écarta les jambes, baissa la tête et appuya ses coudes sur ses genoux. Il fut content d'avoir pris cette position. Il regardait entre ses deux pieds. C'était très doux, parce qu'il ne voyait rien, et par conséquent, rien ne venait déranger les idées qu'il avait dans la tête. Il était comme on dit que sont les fous. Il lui semblait que la mère Turpin était couchée par terre entre ses deux pieds. Il se courbait pour être plus près d'elle. Il la contemplait, et il y avait entre eux un échange de conversation, une mêlée de souvenirs, et quelque chose de plus fort encore. On eût dit que le lien qui les avait unis pendant la vie les tenait attachés à nouveau. C'était une sorte de contact intime. Pour tout au monde, le père Turpin eût modifié sa position. Les voisines, s'inquiétant de ne pas le voir, finirent par aller le visiter dans sa maison. Tout ce qu'elles firent fut inutile. Elles eurent beau le raisonner. Il ne voulut même pas se redresser. Il disait « C'est impossible, il y a quelque chose qui me tire la tête par en bas. » Il mourut le troisième jour, ses coudes sur ses genoux, dans l'attitude qui était la seule maintenant qu'il consentit à garder. La mère Turpin était étendue entre ses pieds, il baissait la tête. Soudain, il tomba en avant. Il lui sembla qu'il allait la rejoindre, qu'il tombait, le nez sur elle.